Donc la doctrine sociale de l'Église, ce qui occupera plusieurs exposés. La question est d'une actualité qui me semble chaque jour plus brûlante devant la déroute de notre société qui ne sait plus vers quoi elle se dirige et qui n'a plus à proposer à ses acteurs que des considérations financières et à ses jeunes, rien du tout. Le désarroi de tous se traduit par une violence croissante, la recherche d'un acte gratuit qui n'est que la marque du vide qui taraude leur conscience. Alors pourquoi ne pas se tourner vers l'Église qui, elle, a quelque chose à dire? Personnellement, quoique non initialement non spécialiste de la question, je vais essayer d'explorer cette voie avec vous, appuyé en particulier sur le Que sais-je, numéro 2495, paru en 1992, dont l'auteur a pour nom Jean-Luc Chabot. J'en citerai parfois plusieurs passages sans pour autant le spécifier à chaque fois. J'ai également en main le cours de Jean Doja qui comporte plusieurs chapitres fort intéressants sur la question. L'expression « doctrine sociale de l'Église » désigne les principes énoncés par l'Église dans le but d'éclairer l'agir social de l'homme et ses conséquences sur les institutions qui régissent la vie sociale, la famille, l'économie, la politique, l'éducation, la culture, la communication, le droit, etc. Traditionnellement, on fixe le début de son élaboration en 1891, avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, dont l'objet était la condition des ouvriers. Mais en regardant bien, cette doctrine sociale date du christianisme lui-même. Dans un de ses messages, Pie XII l'avait suggéré, puisqu'il avait rappelé l'esprit de la responsabilité de tous pour tous. Au cours du christianisme, on peut dire que saint Paul a commencé en affirmant la noblesse du travail. Celui qui ne travaille pas, avait-il dit, qu'il ne mange pas non plus. Puis, dans toute l'histoire de l'Église, ce sentiment de responsabilité a poussé et pousse encore des âmes jusqu'à l'héroïsme charitable en vue de créer des conditions sociales capables de rendre possible à tous les hommes une vie digne et aisée. Citons pêle-mêle saint Jean-Baptiste de la Salle et saint Jean Bosco dans le domaine de l'éducation, saint Jean de Dieu dans celui de la libération des esclaves, saint Vincent de Paul et le bienheureux Jeanne Jugand pour les soins donnés aux pauvres, sans parler de Mère Teresa, saint Martine de Porres pour les infirmiers, sans parler de saint Louis pour le gouvernement, et du bienheureux Adam et de la tour du pain de ce banquier allemand dont la cause en béatification a été irrécemment introduite. L'acuité et la variété des problèmes affectant nos sociétés a conduit l'enseignement pontifical à déployer un abondant corps de principes sur la conformité au dessein divin de l'agir social de l'homme et de l'ordre social qui en résulte. Toutefois, il faut préciser que cette doctrine sociale n'est pas un manuel. Ainsi que l'a précisé Jean-Paul II, l'Église n'a pas de solution technique à offrir. Elle ne propose pas de système ou de programme économique. En politique, ce n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste. L'Église propose une formulation précise d'une réflexion à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale, sur les réalités de l'existence de l'homme dans la société. Comme l'a dit Gustave Thibon, gauche-droite, assez de nous faire marcher au pas, nous ne sommes ni de gauche ni de droite, nous sommes d'au-dessus. Il faudrait peut-être répéter ça actuellement. Quels sont les principes de cette doctrine sociale? Remarquons d'abord le sort étrange fait aux valeurs dont se targue notre société. Ces valeurs, la liberté, les règlements tombent comme la pluie un jour de grand orage. On pense tout de suite à la circulation routière et à la plupart des fabrications. Actuellement, mettre une maison aux normes, c'est-à-dire la rendre conforme aux règlements en vigueur, est proprement ruineux. Ce n'est même pas toujours possible. Il faut tout reprendre. Les canalisations, d'eau, de gaz, toute l'électricité, etc. La manie réglementaire ne craint pas le ridicule. Il est interdit de fabriquer des cigarettes en chocolat. Il est désormais obligatoire de faire figurer sur certaines conserves, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. La seule liberté réelle dont nous disposons est celle de vanter les pratiques criminelles et les vices les plus dégradants. La cigarette en chocolat, non. Le préservatif et la sodomie, oui. Je crois que Rabelais lui-même se serait mis franchement en colère. L'égalité. Dans la pratique, ce ne peut être qu'une illusion. Il y a les jeunes et les vieux, les habiles et les maladroits, les théoriciens savants et les artisans habiles, savant qu'Ausinus était un piètre bricoleur. Il y a 2000 ans, 2500 ans même, un certain Méninius Agrippa a proposé les membres et l'estomac pour calmer des ardeurs populaires, faisant ressortir la complémentarité nécessaire des corps de la société. J'ai eu dernièrement sur le sac entourant une baguette de pain cette pensée profonde: si tout le monde devient un seigneur, qui fera tourner le moulin? Quant à son aspect pratique de l'égalité, il suffit de remarquer la manière dont le monde politico-médiatique traite les idées et les hommes selon qu'elles sont ou non jugées politiquement correctes. La fraternité, il n'est que de voir les appels à l'envie, à la colère du monde politique et syndical pour constater qu'elle n'est qu'une façade bien lézardée. Porter secours à des malheureux ne peut se concevoir qu'à travers des torrents de haine et d'imprécations. Nous sommes loin de l'histoire de Jeanne Jugant, qui un jour a reçu une gifle en quêtant pour ses pauvres et qui répondit « La gifle est pour moi. Pourriez-vous maintenant donner quelque chose aux pauvres ?» Vu de l'Église, ces valeurs ont un tout autre sens. Liberté, égalité et fraternité sont bien différentes lorsque ce sont celles des enfants de Dieu. La liberté, c'est la dignité de l'élan conscient vers son Créateur. L'égalité, c'est la dignité de chacun en tant qu'enfant de Dieu. La fraternité, c'est le devoir de chacun vis-à-vis de ses frères en Jésus-Christ. Les fondements de la doctrine sociale peuvent être abordés. Oui, alors ces questions de la comparaison de la doctrine sociale avec les valeurs dont se targue notre société laïque montrent bien que la dite société laïque est en train de faire complètement fausse route. On peut aussi aborder les fondements de la doctrine sociale à partir des sept dimensions de l'homme, telles qu'en parlait le père Marie-Dominique Philippe, puisqu'il s'agit de la vie de l'homme tout au cours de sa destinée terrestre. Premièrement, a-t-il dit, l'homme travaille. C'est la dimension la plus évidente. Nulle société n'existe sans le travail de ses membres. Deuxièmement, l'homme souffre, constatation universelle, qui ne laisse personne indifférent. Que d'autres hommes cherchent à soulager cette douleur ou hélas en soient parfois la cause. Troisièmement, l'homme meurt, destinée inéluctable, qui devrait inciter chacun à la responsabilité vis-à-vis de ses proches et de lui-même, et non de s'étourdir dans le cercle clos de distractions qui ne sont que la satisfaction d'instincts de plus en plus bestiaux. Quatrièmement, l'homme vit en société. C'est ainsi que le définit Aristote, il disait « l'homme est un animal social ». Chaque homme a reçu beaucoup de cette société, une langue, des coutumes, des traditions, toute une éducation. Il a par conséquent des devoirs envers elle. Cinquièmement, l'homme est un artiste. Il est créateur artistique. Par là, il agit à l'image de Dieu. Le côté artiste de l'homme est attesté depuis la préhistoire. Il est d'ailleurs intimement lié à son côté mortel, ce qui mériterait une réflexion approfondie. Sixièmement, l'homme aime. C'est-à-dire ne peut trouver sa fin en lui-même, ça c'est très important. L'amour le plus primitif consiste à s'emparer de quelque chose pour son usage, j'aime les carottes. L'amour le plus évolué consiste à se dévouer à un autre dans une réciprocité, dans une œuvre commune. Dévouement qui peut aller jusqu'à un total oubli de soi, cela on le voit dans l'amour conjugal. Un monde sans autre amour que celui de son corps est un amour invivable qui ne peut déboucher que sur sa propre destruction. Septièmement, l'homme adore. L'homme a toujours regardé le ciel en cherchant à s'élever vers Dieu, être suprême. Les grands philosophes tels Aristote sont arrivés jusqu'à la contemplation d'un être premier nécessaire, moteur immobile, c'est-à-dire à l'origine de tout mouvement en étant lui-même immuable. Ces sept dimensions de l'homme sont inséparables les unes des autres. Les idéologies meurtrières qui ont ravagé et ravagent encore notre pauvre humanité consiste à ne prendre qu'une dimension en négligeant les autres, ce qui revient à mutiler l'homme. Le marxisme, et dans une large mesure le libéralisme, ne voit en l'homme que la dimension économique, en négligeant tout le reste. J'entends encore le père Philippe dire, lorsque je parle avec un marxiste qui reste enfermé dans son univers économique, je lui demande s'il a une femme et des enfants. Aussitôt, la conversation change d'allure. Vouloir négliger une ou plusieurs de ces dimensions fondamentales de l'homme ne peut déboucher que sur un désastre. Toute idéologie débouche sur un totalitarisme. Nous ne le savons que trop. La doctrine sociale s'occupe de l'homme intégré dans le réseau complexe de relations des sociétés modernes. Les sciences humaines et la philosophie aident à bien saisir que l'homme est situé au centre de la société, mais seule la foi lui révèle pleinement sa véritable identité. Et elle est précisément le point de départ de la doctrine sociale de l'Église. On retrouve le tandem de la foi et de la raison, dont Jean-Paul II fit une encyclique et que Benoît XVI a magistralement développé dans son discours de Ratisbonne. La foi est une lumière donnée par Dieu, lumière qui nous appartient de communiquer au monde. La raison est une faculté donnée à l'homme pour approfondir ses données transcendantes et leur permettre en quelque sorte de s'incarner dans la vie de tous les jours. Cela pose aussi le problème de la finalité. Que sommes-nous venus faire ici-bas ? Quelle est la foi véritable, la fin véritable de toute vie humaine ? Cette question est fondamentale. Elle l'était déjà chez l'homme de Néandertal, qui ornait de pétales de fleurs la tombe d'un enfant il y a quelques millénaires. Dans son encyclique Centesimus Annus, le centenaire de Rerum Novarum, donc paru en 1991, Jean-Paul II a rappelé que les systèmes idéologiques adoptés par les hommes depuis quelques siècles ont toujours fini par manifester leur caractère totalitaire. La doctrine sociale de l'Église acquiert ainsi la valeur d'un instrument d'évangélisation, car elle annonce Dieu et le mystère du salut dans le Christ en révélant l'homme à lui-même. Seule la foi révèle pleinement notre identité, elle qui en est le point de départ. La prochaine fois, nous commençons à examiner un peu plus en détail la nature de l'homme. Avec mes excuses pour tout ce qui est passé, et bienvenue aux auteurs qui, paraît-il, sont en Russie actuellement et veulent recevoir Radio Silence.